Bienvenue à Micro-Sillon,
des interviews fantastiques.
L'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah ça c'est vrai, on est très bien reçu.
Bienvenue nouveaux compagnons,
de la musique, du documentaire, etc.
20 minutes écoute notre émission.
Attention.
Hommage spécial dédicace.
Micro-Sillon.
Hello.
Salut.
Hello.
Bonjour.
Haha.
Bienvenue à tous et toutes. Nous allons vous présenter l'émission du mois de novembre.
Vous écouterez tout d'abord un texte composé par Marine. Il s'intitule « Ambiance à Micro-Sillon ». Un texte écrit tout en légèreté, attachante, qui vous mène au contact de notre collectif.
Ensuite, vous allez retrouver l'histoire de Rodolphe Orville, adaptée en radio avec le personnage de Jean-Pi et son acolyte, le bébé singe. Nous en sommes à l'épisode 23/26, le sauvetage du petit chat. Le suspense est insoutenable.
Puis le morceau Times de The Obscure Ways, Christophe nous entraîne dans les nappes obscures de son univers électro.
Vous pourrez écouter ensuite une interview réalisée par Vincent à Nîmes, dans le cadre d'une journée sur l'autisme. Vincent a interrogé les deux auteurs d'un spectacle qui s'inspire de journaux écrits dans l'hôpital de Saint-Alban, à l'époque où y travaillait le psychiatre Toscaïès. Le spectacle s'intitule « La méningite des poireaux ».
Jean-Noël vous emmène dans ses périples, aujourd'hui départ pour le Mexique, des vacances riches en découvertes.
Puis une présentation de la chanson de Jeff Lynne, In Old England, par Camille.
Ensuite, suivez l'interview de Nathalie Marty-Aoussia, animatrice d'atelier d'écriture sur Toulouse et à Bonpied-Bonneuil, qui nous raconte son parcours et réflexions qui l'ont amenée à se lancer dans l'écriture après que son monde ait été chamboulé par la maladie, alors que ses études l'auraient amenée dans une direction différente.
Ensuite, une présentation scientifique de l'amour par Alban.
Nous vous souhaitons une bonne écoute automnale et nous vous rappelons que au 1 rue Francis Lopez, nous vous attendons. Si vous êtes intéressé par des émissions radio, proposez vos émissions le lundi de 14h à 16h. Et tout de suite, c'est parti pour le texte de Marine, Ambiance à Micro-Sillon.
Carrière cotonneuse, fumée florale, un être spasmeux à la conscience piqué étourdi. Neurodivergence des poètes. La pluie étale la matière et le vent effiloche ta peau. Une démarche élastique passe. Les cloches hurlent l'ordre social. Non, ce n'est pas l'heure de la logique. C'est l'heure de déconstruire l'action. De laisser s'échapper les ombres de la conscience pour une folle danse électrique. Et la colère monte et fait ses gammes. Les fantômes dansent sans harmonie dans le sauvage imprévisible. Le cocon accueille tout type d'émotions, déposant des sillons de plus. À Micro-Sillon, on distille l'essence brute d'être au cerveau turbulent. Entre souffrance subie et singularité affichée et joueuse, quelle est l'action qui anime cette atmosphère pétillante? De la créativité à revendre, de la communication, de l'implication sociale, l'accompagnement des initiatives. Et quelqu'un entre, et un groupe sort. Deux personnes vont travailler au studio, au salon on boit un café, paroles fantaisistes dans l'air. Les fumeurs s'entassent sur le petit balcon où les discussions s'éternisent. On s'y pose aussi pour la chaleur humaine, pour que les ombres s'éloignent. Il fait chaud dans cette ruche. On ne sait pas qui on va croiser, mais on va être embarqué dans des projets. Trois pas en avant, deux pas de côté, mais du mouvement. Allez, c'est l'heure du ménage, vaisselle, aspirateur, la motivation est faible. On ferme les volets, on ferme le local, on s'éparpille vers nos maisons. Ce soir, diffusion de l'émission sur votre fréquence préférée.
Chers amis, bienvenue dans l'histoire de Jean-Pi et le bébé singe, une histoire racontée en 25 épisodes par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand, paru en 1963 aux éditions Hachette. Cette histoire, entièrement enregistrée sur bande magnétique, a été réalisée avec une musique sur pick-up stéréo tourne-disque. Petit détail, à l'écoute si vous entendez un récurrent, c'est qu'il s'agit bien d'une fabrication artisanale. C'est le raccord de bande cassette. Réalisé en 1985 et remasterisé en 2018, de 63 à 2019, 56 ans plus tard, l'histoire est toujours là. Résumé général. Comment Jean-Pi, ayant récupéré par hasard un petit chimpanzé, est appelé à le faire adopter, non sans mal, par les habitants du pays des enfants. Aujourd'hui, épisode 23, le sauvetage des petits chats. Résumé de l'épisode précédent, devant le vieux moulin, Babylas est dévoilé au public. Le petit chimpanzé saura-t-il, par son agilité, sauver les chatons?
S'écria un gamin. Des acclamations s'élèvent de l'assistance. On l'encourage, Babylas. Maintenant, il avance lentement le long du mur. La branche ploie. Babylas se penche. Il tend la main aussi loin qu'il le peut. C'est encore trop grand. Font tous les enfants. Le chimpanzé ne se décourage pas. Il renouvelle son acrobatie de tout à l'heure. Il s'accroche par une patte de derrière et se laisse tomber en avant. Il cueille l'un des chatons dans l'aube de la ruche du moulin. Il remonte. voilà qui prend tranquillement le chemin de retour d'arbre en arbre. Pour gagner du temps, Jean-Pi se glisse dans l'arbre le plus proche. Quelques secondes plus tard, Babylas émerge au-dessus de lui dans le feuillage. Et dépose au fond du panier un chaton tout tremblant. Et les enfants, déjà Babylas est reparti. Ainsi, le deuxième chaton, le troisième, le quatrième, il n'en reste plus qu'un. Mais au moment où Babylas se laisse descendre vers lui, la foule pousse un cri d'effroi. Car dans un sourd craquement, la roue s'est remise à tourner, entraînée par le flot. Lentement, très lentement, l'orbe s'éloigne de la main de Babylas. Dans 2 ou 3 secondes, le dernier chaton sera noyé. Non ! Le chimpanzé a compris le danger. Suspendu par une patte derrière, il se balance quelques instants, puis lâche la branche et tombe sur la roue. Il empoigne le chaton. La roue continue à tourner. Babylas descend vers l'eau tourbillonnante. On remonte, lui hurle Jean-Pi. Babylas grimpe le plus vite qu'il peut d'une aube sur l'autre. Mais c'est comme s'il essayait de prendre un escalier roulant en sens inverse. Il est toujours à la même hauteur. Jamais il n'aura le temps de remonter jusqu'en haut, de reprendre son élan et de se raccrocher à la branche. Car celle-ci, libérée de son poids, s'est redressée. Elle est maintenant trop loin.
C'était Jean-Pi et le bébé singe, raconté par votre ami Rodolphe Orville, d'après un texte de Claude Moirand. Chers auditeurs, pour la suite, rendez-vous le mois prochain, même heure, même fréquence. En attendant, gardez votre âme juvénile. À bientôt!
Quelle horreur! Le corps du cadavre a été strié!
Olson, on a affaire au tueur au micro-sillon!
Celui qui utilise la création sonore comme arme? Brrr!
Étrange, l'arme du crime est mouillée. Serait-il rentré par le canal?
Probablement, depuis que micro-sillon passe dedans. Micro-sillon stream tous les mercredis à 16h.
Ciel! Ça coïncide avec l'heure du meurtre! Et elle stream sur son canal YouTube, Association Micro-sillon. Elle a laissé plein de traces par contre.
C'est certainement le SCOF.
We'll be right back. Nous avons une preuve formelle. Des extraterrestres habitent sur une autre planète.
Le micro-sillon.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent. Bonjour, me voici à l'IFME de Nîmes pour un événement sur l'autisme avec un couple de personnes qui vont faire une pièce de théâtre, la méningite des poireaux. Donc je vais les laisser se présenter. Je viens de les rencontrer là, on s'est croisés quand on a installé notre stand de micro-sillon.
Bonjour, je suis Jeanne Videau et voilà, je suis comédienne et je travaille sur le spectacle avec Fred, voilà.
Et moi, je suis Frédéric No et donc moi, je me définis plus comme conteur et donc on va jouer à la méningite des poireaux.
Je ne dois pas être le premier à vous poser cette question, mais pourquoi la méningite, c'est une maladie, je crois, et des poireaux, c'est un légume. Associer ces deux-là, ça a un rapport avec le psychisme, parce que c'est une pièce à la base, historiquement, par rapport à Toscaïès. Voilà, que pouvez-vous en dire?
En fait, c'était un malade de Saint-Alban qui écrivait dans le journal Trait d'Union, une malade qui avait écrit qu'elle était atteinte de la méningite des poireaux. Voilà, et on a trouvé que c'était très évocateur, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire, mais ça nous a parlé au point de donner cette association de mots à notre spectacle. Voilà.
Et vous êtes passé, je vais vous relaisser la parole par rapport à ça, mais vous êtes passé à Saint-Alban. Je crois, nous, on a eu participé, on n'a pas eu l'occasion de voir malheureusement votre spectacle encore. Mais à Saint-Alban, on a fait des colloques d'enregistrement de CD, à Ampi aussi. Là, on y a été à cette dernière édition. Et c'est là où on a rencontré la personne qui organisait cet événement à Nîmes, de l'association Regain. Voilà, c'est juste une aparté, je vous laisse.
Oui, à Saint-Alban, on a joué la méningite des poireaux. Et puis c'est le point de départ de notre spectacle, parce qu'il y a, 2011-2012, on était allé à l'hôpital, on avait visité et on avait vu... Le journal Trait d'Union, c'était le journal qu'écrivaient les malades, que François Toscaïès faisait écrire aux malades et pouvait écrire dedans sans aucune censure. Et donc quand on a vu ces textes, on a été très touchés. Et ça a été le point de départ, c'est ça qui nous a donné envie d'écrire ce spectacle sur la vie de Toscaïès et sur l'hôpital de Saint-Alban.
Et cette personne, donc, vous l'avez rencontrée, je suppose, ou pas, qui faisait le journal Trait d'Union?
Alors, François Toscaïès a commencé à faire, c'est lui qui a eu l'idée de faire ce journal. Il est décédé en 94 et c'est son fils, Michel Toscaïès, qui nous a fait visiter l'hôpital et qui nous a raconté la vie de son père. Voilà, et c'est comme ça qu'on a eu vent de toute cette histoire.
D'accord. Et le texte d'où est extrait le titre de notre spectacle, en fait, c'est un texte qui datait des années 50, ouais, à peu près. Donc voilà, d'accord. On n'a pas
pu connaître. Les archives que vous avez récupérées, ce moment-là de ce journal vous a particulièrement marqué par rapport à d'autres pour créer la pièce.
Tout à fait. Oui, c'est ça. On a pris des extraits, on fait une longue résidence à l'hôpital à plusieurs pour lire tous les traits d'union et chercher les textes qui nous touchaient le plus. Et le texte dans lequel il y avait la méningite des poireaux a été un des textes qui nous a le plus touchés. Voilà, c'est comme ça qu'on a choisi ce titre.
Ce qui faisait le plus l'union par rapport à traits d'union, je fais un jeu de mots, qui faisait l'union, l'écho, c'est sur ça que vous êtes basé. Donc.
Le journal Traits d'Union, c'est vraiment un symbole de ce que faisait Toscaïès à l'hôpital de Saint-Alban, parce que justement il cherchait vraiment à ce que les gens se rencontrent, parce qu'il disait, on le répète un peu dans le spectacle, il disait la rencontre permet, le conflit permet la parole, et la parole est guérison. Et le but unique de l'hôpital, c'est la guérison, disait-il. Donc voilà, lui, le fait que les gens se rencontrent, que ça frotte, que ça grince, que ça rentre en conflit, pour lui, que ça fasse débat, ouais, tout à fait, c'était pour lui l'opportunité d'aller vers la guérison, par le biais de la parole, de l'échange, de comprendre l'autre, de s'exprimer, de dire pourquoi on a été blessé, touché... remuer, voilà.
Que pouvez-vous dire donc sur votre parcours de comédien et en lien avec la psychiatrie, ça a été vos débuts à cette occasion-là de Trait d'Union, de ce spectacle où vous avez fait d'autres spectacles avant et en lien avec le handicap ou pas forcément que... Que pouvez-vous en dire ?
J'avais écrit un spectacle autour du handicap. Et même quand j'ai rencontré Michel Toscaïès, donc, et l'hôpital Saint-Alban, j'étais en train d'écrire un spectacle autour du handicap mental. Voilà, parce que j'ai moi-même une tante qui est en situation de handicap mental et qui vivait avec nous et qui m'a été très proche. Voilà, j'étais très proche d'elle quand j'étais gamin. Et j'avais envie de raconter ça sur scène. Donc ça a été, voilà, c'était le road movie du Taureau Bleu, ce spectacle-là.
Le déclencheur, un peu, ça a été la...
Voilà, et ça a été la porte d'entrée pour rentrer dans cet univers. Oui, tout à fait.
Oui, moi, c'est vrai que ça fait un moment que... Depuis longtemps, j'ai travaillé autour de la folie. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi exactement ? Je ne sais pas. Je pense que je peux aller chercher un peu dans mon histoire personnelle. D'ailleurs, comme tout le monde, hein. Je pense que ça touche plus ou moins de près ou de loin chacun d'entre nous. En tout cas, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéressait grandement. Aussi dans l'interprétation, d'aller chercher quelles étaient, à l'intérieur de moi, mes limites. Quelle est ma propre folie ? Voilà, si c'est quelque chose que j'aimais expérimenter dans mon métier. Et donc c'est vrai que de travailler sur ce spectacle, ça avait beaucoup de sens. Voilà, c'était un peu la suite, le chemin. Voilà.
Et depuis que vous faites cette pièce, vous avez eu l'occasion de rencontrer, d'échanger avec des patients, quels ont été leurs retours, ou même des professionnels, que ce soit éducateurs, psy ou autre?
Oui, on a énormément travaillé. On a choisi de jouer ce spectacle et dans des salles de spectacle et dans des institutions qui étaient des institutions psychiatriques ou même des ESAT, etc., autour du handicap. Donc on a beaucoup travaillé dans des institutions et on est allé chercher les retours. On a eu pas mal de retours qui nous ont aussi fait écho et qu'on a un peu utilisé pour introduire dans le spectacle ou modifier des choses qui n'étaient pas justes ou des choses comme ça. Et puis à l'occasion de ce spectacle, on a fait beaucoup d'ateliers, notamment d'écriture et de mise en espace ou de mise en audio, entre guillemets, des textes que les personnes écrivaient. Et c'est aussi notamment en hôpital psychiatrique des gens qui ont énormément de choses à dire, de façon beaucoup de poètes en fait. Et donc ça a été très riche aussi de rencontres à travers ces ateliers-là. Voilà.
Donc à travers ces ateliers-là, ça a été indirectement une pièce de théâtre qui fait participer le public, les gens. C'est pas qu'une pièce de théâtre en duo. Voilà,
la pièce en elle-même, elle reste ce qu'elle est. Ouais. Après, nous, c'est des ateliers qui sont autour du spectacle qu'on propose.
Oui,
on les introduit pas dans le spectacle. Mais par contre, souvent, ça nous arrive de faire des présentations de ce que les gens ont écrit. Si on travaille sur une semaine, par exemple, on a fait un stage à Saint-Alban, l'hôpital psychiatrique de Saint-Alban. Pendant une semaine, à la fin de la semaine, chacun a présenté ses textes. Voilà, et on fait ça souvent, en fait.
On a fait ce genre de formation ou de stage, donc à Saint-Alban, on l'a fait en Bretagne, on l'a fait à Toulouse, on l'a fait en Alsace, là, le mois dernier, on l'a fait à Montpellier, à l'ESAT, la Bulle Bleue. Et pour nous, c'est vraiment des moments qu'on aime beaucoup parce qu'on travaille vraiment avec soit les résidents des foyers, les travailleurs des ESAT ou les gens à l'hôpital. Vraiment, en tant qu'artiste, nous, on a envie que les gens, ils s'expriment, soit par l'écriture, soit sur scène en tant qu'artiste. Et c'est vraiment des chouettes rencontres, ces moments-là, pour nous.
Ouais. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement d'être au-delà du handicap, de la psychiatrie, etc., mais d'être entre personnes humaines et de travailler. Et l'art nous permet ça, en fait. C'est que tout d'un coup, on essaye d'enlever un maximum nos étiquettes et d'être là pour la même chose et de se rencontrer d'humain à humain, quoi.
Oui, entre les gens dits dans la norme et les gens autres, voilà. Par rapport aux GEM, les groupes d'entraide mutuelle, parce que là, vous me parlez des AT, d'hôpitaux et tout, que pouvez-vous en dire? Vous pensez que c'est un bon intermédiaire, je ne sais pas, une bonne structure parallèle qui peut être, qui est novatrice? Qu'est-ce que vous auriez à dire sur ça?
Moi, je trouve que les GEM qu'on a pu rencontrer ou à Paris ou en Bretagne ou à Toulouse, c'est des structures qui permettent aux malades de se prendre leur parole et de poser des actes par eux-mêmes et non plus se poser en patient. Et ça, je trouve que c'est très en lien avec ce que proposait Toscaïès quand il intervient dans la psychiatrie au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et les malades sont vraiment considérés à cette époque-là comme des choses. C'est pas du tout ils sont pas du tout considérés ni comme des êtres humains, ni comme des citoyens. Et lui, tout son travail, c'est de leur montrer qu'ils sont citoyens et que même au sein de l'hôpital, ils peuvent être citoyens. Et je trouve que les GEM, ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire le fait de s'associer, de réfléchir ensemble, enfin ce qu'on a pu en connaître, le fait de poser des actes ensemble et
le pouvoir d'agir, le savoir expérientiel qu'on se transmet.
Exactement, je trouve que ça va dans le même sens et donc on soutient fortement toutes ces associations-là. Quoi.
J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que oui, c'est-à-dire qu'il s'agit justement de se réemparer de la parole. C'est facile de parler des autres, etc., les médecins, les soignants, etc., et le fait de dire attention, on est là, on reprend la parole, on revient au centre de notre problématique, et le centre de notre problématique, c'est nous. Donc c'est très juste, en fait, c'est courageux, juste, à la bonne place, en fait.
Ben, merci de votre participation à cette interview et à cet événement par la même occasion. Voilà, et au plaisir de se voir peut-être à Toulouse, de venir voir notre local, par exemple, on est à Croix-d'Orade. Voilà, et bonne continuation, voilà, en espérant que si vous avez, je suppose, des projets futurs de spectacles en lien ou pas forcément avec le handicap, si vous voulez faire une annonce, oui, ouais. C'est l'occasion.
Alors, on va faire une annonce. On joue à Toulouse le 25 novembre à Centre culturel Henri Desbals et du mardi 30 novembre au samedi 4, il me semble, décembre, au Grand Rond. Une pièce autour du handicap physique qui pose les questions de la sexualité aussi. Voilà, et qui raconte la vie de Marcel Nuss, voilà, et de Jill Nuss.
Le nom de cette pièce, peut-être ?
C'est Marcel Nu, et c'est au Théâtre du Grand Rond.
Voilà. D'accord, nu comme nu, comme la nuit, d'accord, ok, comme être nu. Ça marche, et bien bonne continuation encore, et au plaisir. À la prochaine, si un site internet peut-être quand même, ou un réseau social ou non.
Si vous tapez Frédéric No Conteur, vous allez tomber sur un blog du temps des dinosaures, mais qui donne quand même quelques infos.
Ouais. Okay. Merci.
Ça marche. En termes de site, rassurez-vous, nous aussi, on a un site des dinosaures. On veut l'actualiser, mais voilà, ça se fait pas en claquement de doigts. Au revoir.
Merci.
Au revoir. Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Jean-Noël a utilisé une musique qui n'était pas libre de droit, alors vous aurez droit à une retranscription de ce qu'il a dit. Je suis parti seul l'été 2015 au Mexique une semaine. J'étais une semaine dans l'hôtel Rio Lopit à Playa del Carmen. J'ai réservé quelques excursions pour visiter un peu le Yucatan. J'ai vu l'une des sept merveilles du monde, Chichen Itza, qui est une ancienne cité maya en ruine. Lors de cette excursion, je me suis aussi baigné dans le Tenochtitlan. J'ai fait une journée en excursion également au parc Ixcaret. J'ai nagé avec des dauphins, fait un rituel maya sous une pierre, avec des braises et de la chaleur. Assister à des spectacles sur l'histoire du Mexique. Je me suis également baladé sur la 5e avenue de Playa del Carmen également lors de ma semaine. Et fait de la plongée sous-marine dans la mer des Caraïbes. J'ai eu un peu peur lors de mon voyage au Mexique, car j'y suis allé juste quand El Chapo, un baron de la drogue, s'est échappé de prison. mais tout s'est bien passé lors de mon voyage au Mexique. Et c'était tout. Micro-sillon.
J'adore dans l'atelier quand c'est un peu le bordel, les gens arrivent en retard, il y en a qui me disent « Oh, je sais pas, moi je sais pas écrire ». Et puis, un quart d'heure après, une fois que j'ai un peu installé l'atelier et la thématique, j'adore ce son de 10 personnes en train d'écrire sur le papier et les bics qui glissent. Et tout à coup, il y a une concentration, enfin voilà, là c'est magique. Je m'appelle Nathalie Marty-Austin, j'anime des ateliers d'écriture dans des lieux dans un peu partout dans la ville et aux alentours. Et voilà, par ailleurs, j'écris également plutôt de la poésie, des articles également dans des revues spécialisées. J'ai travaillé dans une agence immobilière. Chargé de location, j'ai travaillé à la Tour Eiffel à Paris, je m'occupais d'un buffet, service dans un buffet. J'ai également travaillé au restaurant Drouan, où là j'étais vestiaire. J'ai travaillé à la bibliothèque Beaubourg à Paris toujours, où là c'était du rangement de livres. Ensuite, j'ai travaillé dans une maison d'édition chez Magnard, où il s'agissait de co-écriture d'une grammaire. Et puis, par la suite, je me suis lancée dans les ateliers d'écriture après des études de lettres modernes à Paris. Alors en 95, donc c'était la fin de mes études, lettres modernes, j'étais l'année où on préparait les concours, hein, CAPES et AGREG, et c'est là que la maladie s'est déclenchée, et en fait, je suis tombée gravement malade pour la première fois de ma vie, hospitalisation en psychiatrie, et c'est là que, en fait, tout a été dévasté, on va dire. J'ai perdu les amis, les liens à la famille. Bien sûr, j'étais hors d'état de travailler à l'époque. Hospitalisation, traitement très lourd. Voilà. Donc, un peu ce moment-là où tout s'effondre intérieurement et également le lien social aux autres et aussi le travail. Et du coup, il m'a fallu tout un temps pour me réparer. Et en fait, c'est dans ce temps-là, le temps après hospitalisation, que je suis allée dans un groupe d'entraide mutuelle. À l'époque, c'était Bon Pied Bon Oeil. Et c'est là, d'une manière un peu spontanée, que je me suis dit, tiens, moi qui ai toujours aimé les livres, moi qui ai toujours profondément aimé écrire, en fait ce que j'aimerais c'est animer des ateliers d'écriture. Donc je l'ai dit d'une manière comme ça, spontanée, un peu intuitive, et ensuite je me suis formée à l'animation d'ateliers d'écriture et j'ai commencé à travailler ce travail d'atelier d'écriture au début dans le GEM, c'est-à-dire dans un espace un peu protégé, en sécurité, avec des gens qui me jugeaient. Tout le monde avait une expérience un peu de la maladie et du coup c'est un espace voilà, de convivialité, d'entraide. Et c'est dans cet espace-là que j'ai commencé au début d'une manière très modeste, un atelier en bénévole, un atelier par semaine. Et petit à petit, j'ai vu que ça plaisait, ça me plaisait aussi. Du coup, je me suis formée aux ateliers d'écriture et j'ai commencé à travailler petit à petit. Alors, 2 ateliers, puis 3, puis 4 par semaine. Quand je faisais mes études, normalement, la voie entre guillemets normale, c'était passer le CAPES, passer la GREG, devenir prof. J'avais déjà des très bons contacts à l'université. Du coup, voilà, la voie, elle était toute tracée. Et puis la maladie a tout foutu en l'air. Mais du coup, quelque part, c'est une chance parce que j'ai pu choisir un chemin de traverse, on va dire. Et aujourd'hui, quand je me lève le matin pour animer des ateliers, ben, j'aime mon métier et j'y vais, je suis contente d'y aller. Et oui, c'est vrai que ma sœur, elle a choisi la voie toute tracée, on va dire, prof. Et aujourd'hui, elle se plaint beaucoup, que c'est compliqué, que c'est difficile. Et je me dis, bon, ben, finalement, les accidents de la vie, cette maladie que j'ai traversée, ça a eu pour conséquence que j'ai pu trouver exactement ce qui me correspond. Je me souviens, mon père, quand j'étais enfant, il était instituteur, à l'époque on employait ce terme-là, et il faisait de l'alphabétisation, c'est-à-dire il apprenait le français de manière assez ludique et visuelle à des tout petits qui arrivaient en France ou les gens du voyage. Et voilà, c'était passionnant de voir comment il travaillait. Et ma mère, elle travaillait dans une maternelle, dans un quartier assez populaire. Et pareil, aujourd'hui elle a 83 ans, elle fait du bénévolat pour faire du soutien scolaire. Et voilà, c'est une sorte d'engagement. Et puis également se dire que la vie fait que on ne naît pas tous avec le même patrimoine. Voilà, il y a des gens qui viennent d'autres pays, il y a des gens qui sont dans tel quartier en France. Il y a plein de paramètres. Également la composition familiale, les frères et sœurs, les voisins. Il y a plein de paramètres, on va dire, sociologiques qui font que on a telle caractéristique et également telle façon de parler, de vivre, de s'habiller. Voilà. Et tout ça, dans les transports en commun, ben on le voit. Il y a plein de... C'est très diversifié. Alors, dans les ateliers d'écriture, ce qui est formidable, c'est que moi, je propose une thématique ou un poème ou un texte ou des images. Et ce qui est formidable, c'est de voir comment chacun a son style à lui, quelque chose de singulier. Et ça, c'est vraiment c'est une empreinte très singulière à chacun. Je pense que, quelque part, si on prend les personnes comme... des sujets à part entière, je pense que chaque personne peut tracer son parcours à sa manière. Et dans les ateliers, le fait d'écrire, c'est petit à petit découvrir aussi, à travers les mots, à travers l'écriture, son propre récit, quelque chose qui est irréductible à chacun. Et le fait qu'on le mette en mots, ça peut ouvrir des choses, des possibilités. Parfois, je suis amenée à militer dans des colloques. Et parfois, j'ai le trac. Donc là, j'en suis pas fière quand j'ai le trac. Et parfois, j'ai pas le trac. et j'entends la salle qui réagit à mes propos. Parfois il y a des rires ou parfois de l'émotion. Et là je me dis, voilà, là ça vaut le coup de vivre pour ça, pour essayer de faire évoluer les mentalités ou changer le regard sur la santé mentale. Il y a des choses qui me révoltent et je suis fière quand je me dis, ben, peut-être que là on a un peu avancé ensemble. Voilà, il y a encore des choses qui me révoltent en psychiatrie. Alors aujourd'hui, je travaille dans une clinique psychiatrique et des fois, je prends le café avec les collègues infirmiers ou soignants, quoi. Et parfois, j'entends des choses, je me dis, là, il y a toute une révolution à faire, quoi. Il y a des cases, on met les gens dans des cases et on ferme la porte à clé, on dirait que c'est définitif, quoi. Et ça me révolte. Quand j'entends un infirmier me dire, oh, tu sais, lui, c'est un chronique. Avec trois petits points, enfin, il y a le point de suspension, ça veut dire un chronique, il n'y a rien à attendre de lui, quoi. Et là, non, là, je ne suis pas d'accord. Je pense que parfois, on peut être étonné, tout simplement, chaque personne, les patients, les chroniques, comme disaient les soignants, peuvent complètement changer la donne un jour, quoi. Et je pense que nous, le personnel qui accueillons ces patients, il faut avoir quelque part cet horizon ouvert, comme quoi, ben voilà, aujourd'hui il est malade, mais peut-être que demain, dans un an, dans deux ans, peut-être même plus tard, dans 10 ans, il y a une possibilité. Pour ces gens-là aussi, quoi. Si on arrive à penser un après possible, par exemple le rétablissement, eh bien, du coup, on a une manière d'accueillir les personnes qui est plus ouverte, et du coup, les personnes peuvent trouver leur voie. Par contre, si on les accueille en pensant « Oh, ben, lui, c'est un psychotique, c'est un chronique, c'est foutu », eh bien, ils vont être psychotiques et foutus, quoi. Ça se fait d'une manière peut-être inconsciente, mais il y a des choses qui circulent comme ça. Voilà. Donc dans cette clinique, j'anime une bibliothèque avec des ateliers d'écriture et une permanence où les gens peuvent venir lire, emprunter des livres. Et en fait, je suis un peu le lieu de culture dans le lieu de soins. Je suis un peu en décalage, quoi. Je crée une ouverture dans le soin.
L'émission de radio, retrouvez chaque mois l'émission de radio, retrouvez chaque mois l'émission de radio.
Non, merci.
Non ? Non. Pourquoi ?
Vous êtes vous, quoi ?
Voici l'épisode 51 de Néophilo Moué. Mais on a un intro scuff car c'est l'émission libre de droit et j'avais décidé de mettre une des musiques de One Beat Heart pour faire référence à l'épisode précédent. Aujourd'hui, on se rappellera que Sack Jigtsubu Girl est un aspect de la substance, donc il les énumérera ici. Kafukafura
symbolise la vérité en tant que présent. Dieu est infiniment créateur, bon et optimiste, mais aussi tel Kafuka cassé et plus ou moins instable. Le côté obscur de Kafuka est donc le négatif. Les horreurs cosmiques, abominations Eldritch et autres créanciers qui occupent les trous de cet univers. Matoi Tsunetsuki symbolise simplement la vérité en tant que Dieu, qui vous voit, toujours. Avec l'amour le plus pur et profond qui soit, la substance vous observe au cas où elle aurait besoin de vous retrouver plus vite. Dans l'espace, seul subsiste le gin du bruit de fond des planètes, étoiles et nébuleuses qui s'entrechoquent, brillent et soufflent. Meru Otonashi serait la vérité en tant que voix parmi d'autres. La vérité, selon un adage connu, a une voix qui ne porte jamais bien haut, que rare entendre. Épuisée par autant de tentatives ratées, cette voix est devenue cynique et sardonique, d'où les emails abusifs. Reflet de la violence que l'humanité s'inflige à elle-même. Kiriko Mori serait la vérité en tant que structure. Comme j'ai déjà dû le dire, ou pas, La matière est composée d'atomes et composée de quarks qui sont composés de trucs de plus en plus simples et que le composant le plus basique de la matière est l'amour pur. Cet amour caché dans chaque atome en fait de chacun une boîte de Pandore ouverte et refermée avec l'espérance toujours dedans. L'espoir qu'un jour un homme, un philosophe, un amant de Dieu l'ouvre pour se glisser sous sa couette. Maria Taro Sekyotsu pourrait être la vérité en tant que cause à effet et volonté. Elle incarne la sérendipité due à des milliards d'années, la débrouillardise de la vie apparue par pur hasard et dans la clandestinité. Et la vie suit son cours, et les gens endormis par le bokeh de la routine sont frappés par le tsukumi des choses qui changent, sans parler de la révolution. À propos de révolution, elle incarne également l'alternative proposée par les fées, de recycler, respecter et réutiliser pour recréer la richesse du monde. Shirikitsu symbolise la vérité en tant que système. Elle symbolise les lois physiques, qui sied aux modes normaux, ceux dont le rapport signal-bruit est plus ou moins égal à 1, et les fées, les défendant. L'enterrement rituel est une technique de bannissement efficace, mais expéditive, dans ce domaine. Pour l'utilité de garder les lois physiques, moi-même je ne rate pas l'occasion, par exemple en exhortant régulièrement les ordinateurs de se comporter de façon propre, donc de ne pas penser. Usui Kajeru symbolise très certainement la vérité en tant que déniée. Nombre de fées sont invisibles, et existent pour les autres à l'état de légende, un peu comme ceux qui ont le mindset féerique tout en étant des mâles, comme Usui lui-même. Et seul quelqu'un ayant un cerveau délavé peut espérer voir les fées. Nami Itou serait l'inverse, la vérité en tant que routine. Les hommes ont su récemment tellement banaliser la vie de tous les jours qu'ils en arrivent à souhaiter le passage du temps et de plus penser, bloqués dans le métro boulot dodo. Mais cette vie fait partie de la substance, et les modes non humains concernés autour de cette routine existent et font leur devoir comme si c'était leur premier et dernier jour, avec toute leur énergie. Et Nami Itou, tous ces modes, détestent être considérés comme normal. C'est pour ça que le philosophe, chaque jour en se levant, doit faire l'effort de s'étonner parfois des choses de tous les jours autour de sa routine. Ses modes seront enfin fiers, et Nami Itou vous prendra dans ses bras. Mayo Mitama symbolise la vérité en tant que cacophonie. La substance est remplie de choses dangereuses telles les trous noirs, champs d'astéroïdes et monstres spatiaux à la Star Trek. L'univers est tel qu'il semble l'être, sombre, froid et hostile. Mais en fait, la substance est juste incomprise. Elle n'a juste pas encore de morale. Pas de repères et personne pour lui reprocher quoi que ce soit, et c'est tant mieux. Si vous vous sentez l'âme d'une horreur cosmique telle que vous êtes, vous vous adapterez très bien à la cacophonie divine, et peut-être que vous rencontrerez sur votre chemin d'étoiles l'inconnu, l'intéressante et immorale Mayo. Kagaï sera sûrement la vérité en tant que mobile mutante matérielle. Le mouvement muonien des atomes a comme conséquence des milliards de googles de Sumimasen qui s'échangent, et de ces effusions naissent la chaleur indispensable à la vie. C'est pour ça que quand le tout bouge, mute et s'excuse de la gêne occasionnée, on leur répondrait bien avec plaisir à toutes ces kagaï. Kaede Kimura peut symboliser la vérité en tant que motivation. L'amour attire parce qu'il est sa propre source de motivation et le sait. L'univers est une source intarissable de fanservice s'alimentant lui-même. Certains modes en profitent pour parfois porter plainte, d'où Kaere. Rin Itoshiki symbolise la vérité en tant qu'unique, hors pair. La sœur de Nozomu est si motivée qu'elle a rejoint la classe confrérie. Elle lui manque un peu de modestie, mais ce n'est pas un défaut, agissant avec son statut de déesse fille du tout. Abiru Kubushi symbolise la vérité en tant qu'invincible. Ça me rappelle également une autre fille. Abiru n'a pas peur de se blesser pour vivre ses curieuses passions et actions. C'est la même chose pour la vérité. On peut essayer de l'éradiquer jusqu'à ses plus discrets gardiens, mais on n'y arrivera jamais parce qu'elle est, si on tue tous les gens en croyant à l'amour pur que quelqu'un le redécouvrira sûrement par hasard, cela n'empêche pas qu'à l'instar d'Abiru, la substance vêtue de bandages et pansements est une jolie image. Rumi Fujiyoshi Okusa symbolise la vérité en tant que création astrale. Elle incarne la capacité des modes sentients de la substance à en inventer d'autres, simplement en y pensant. Si vous pensez à l'idée de quelque chose, il sera automatiquement intégré à l'idée de la substance. Et ce quelque chose apparaîtra quelque part dans la substance, ce qui ajoute des éléments de chaos parfois. L'idée d'un fanon qui devient canon en quelque sorte. Et puis cela s'applique aussi au shipping, pour nous rapprocher du hobby d'Arumi. Ora Kanako symbolise la vérité en tant que tolérante. Certes, la substance n'est pas tolérante en l'absence d'éléments sentients, chaque être vivant se bornant à avoir une place dans la scène alimentaire, mais des êtres doués de sentience sont capables de vivre en paix ensemble avec le reste de l'univers à proximité, grâce à leur magnanimité et ouverture de cœur, d'esprit et d'âme. Ignorer les instructions d'autrui sur soi a souvent des effets pervers, mais à bon escient, dans une approche un peu zen, alliée avec le flow, mais sans s'y perdre, cela permet d'apporter une inertie salutaire quand on se met à la place d'autrui, comme un règlement à l'amiable est préférable à une plainte. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste un ou deux épisodes expérimentaux pour les mois prochains.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.